sur ton live, tu t'en fous des commentaires, tu t'en fous des messages Messenger, tu focus sur ton live et tu es dans l'énergie. Parce qu'en fait, ça se voit que tu n'es pas dans. T'es stressé par autre chose, tu vois. Reste focus sur ton live avec les gens qui ne voient pas, ils vont voir.
Ok. Alors, est-ce que j'y suis? Tu me dis, j'ai lancé. J'ai. Alors, comme vous le voyez, ça, c'est les joies du direct. Et les joies du direct, ça donne ça. Bon, alors. Centrage, centrage. Aujourd'hui, parce que je suis super, super ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce deuxième live qui est un peu chaotique. Sur le début, néanmoins, il a un super, super, super contenu. Alors, aujourd'hui, je vous partage les cinq leviers qui vous permettent de créer un business rentable. Si j'ai créé ce challenge ici, c'est que vous puissiez, c'est pour que vous puissiez honorer l'entrepreneuse qui est en vous. Et pour pouvoir l'honorer, je sais que j'ai besoin, moi, dans le cadre de ce challenge, de vous donner tout ce qu'il faut pour vous rassurer. C'est l'objet de ce live aujourd'hui, vous rassurer sur les cinq piliers d'une entreprise rentable et vous montrer que ces cinq piliers sont tout à fait à votre portée. Alors, quels sont-ils? Le premier, ils sont dans l'ordre. Le premier, c'est l'état d'esprit. Le deuxième, c'est la clarté des enjeux. Le troisième, c'est agir avec méthode. Le quatrième, avoir un business model bien ficelé. Et le cinquième, avoir le réseau qui va avec. Et je vais tous les détailler. Mais c'est ça les cinq piliers d'un business rentable. C'est ça aussi qui va vous permettre de vous appuyer sur chacune de ces dimensions. Pouvoir non seulement enfin, lancer votre entreprise, mais en plus la rendre pérenne et prospère. Le premier pilier, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien vraiment que je l'ai mis en premier, parce que souvent ce qui vous freine, non seulement dans le lancement d'une entreprise, mais aussi dans son expansion et dans sa pérennité, c'est le mindset. Et ce mindset, il est composé de trois choses très différentes. Les premières choses, ce sont les preuves, les peurs. Les deuxièmes choses, et il faudra des preuves hein, pour lutter contre les preuves, mais les premières choses importantes à travailler dans le cadre du mindset, c'est de lutter contre ces peurs. La deuxième chose, c'est de pouvoir vraiment dézinguer ses croyances limitantes. Et la troisième chose, c'est de pouvoir identifier ses loyautés familiales ou loyautés sociétales, mais les loyautés au sens large. Dans les peurs, en fait, on en trouve deux majeures dans l'entrepreneuriat, qui soient liées à l'entrepreneuriat. Quand on veut se lancer, ça vient chercher très fort la peur de l'insécurité financière. Parce qu'évidemment, on est salarié, on est en entreprise, on a un salaire qui tombe tous les mois, ou alors on a été au chômage, et ben le chômage, il y avait les indemnités qui tombent tous les mois, et là tout d'un coup, on est face à la peur en disant, mais je vais être toute seule responsable de pouvoir rentrer de l'argent et pouvoir me payer. Et là, ça vient chercher fort la question de l'insécurité financière. La deuxième peur qu'on retrouve le plus dans le cadre de l'entrepreneuriat, c'est le sentiment d'illégitimité. Ça va venir chercher vraiment très très fort en vous le fait que vous vous sentiez à la hauteur ou pas de la tâche. Et vous avez votre fameuse voix rabat-joie qui va vous raconter que vous n'êtes pas expert. Et d'ailleurs, cet après-midi, je vous poste un audio sur le sujet de la voix rabat-joie qui vous dit que vous n'êtes pas experte et ce que vous pouvez en faire. Hein. Donc l'une des peurs sera déjà traitée cet après-midi. Dans le cadre de ce groupe est mise à votre disposition. Ça, c'est pour les peurs. Et deuxième chose qui entrave votre mindset, c'est les croyances limitantes. La croyance limitante, c'est je suis pas digne de réussir, je mérite pas, je réussis pas, la réussite et moi, ça fait trois. Voilà, c'est exactement ça
les croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, c'est très important d'identifier d'où elles viennent. La plupart du temps, elles ne viennent pas de nous-mêmes, elles viennent plutôt de quelqu'un qui a proféré un jugement sur nous-mêmes, et ce jugement nous a fait tellement mal qu'il est resté en nous très fortement et qu'il en est devenu une vérité qu'on a sur nous-mêmes, et c'est ça une croyance. La croyance limitante aussi, elle peut être à l'origine d'une expérience difficile qu'on a vécue nous-mêmes et on a proféré un propre jugement sur nous, un jugement négatif, et ce jugement est resté comme une vérité immuable et comme une généralité. Donc voilà la deuxième catégorie de choses qui peut vous gêner dans le cadre de l'entrepreneuriat, les croyances limitantes. La troisième chose qui peut vous gêner, c'est les loyautés familiales. Les loyautés, c'est quand on se sent dans le devoir de rester loyal à quelque chose. Par exemple, vous êtes issu d'une famille dans laquelle les personnes ont eu des métiers de salariés où ils ont senti une oppression de la part du patronat, de la gouvernance, de l'institution, de l'entreprise. Et vous, vous mettre en posture de, bah, tiens, je vais créer mon business, je vais devenir moi-même la boss, je vais créer une entreprise et du coup, je vais être chef d'entreprise, bah, ça, concrètement, ça peut tirailler. Dans les loyautés aussi, on peut avoir une loyauté qui est autour du succès. Vous avez dans votre environnement très proche quelqu'un qui a monté une entreprise et qui a raté, qui a eu un échec, qui a dû déposer le bilan, qui a fait faillite. Et ça pourrait vous laisser comme une loyauté à l'intérieur de vous de vous dire, mais oh, moi, je ne peux pas réussir là où cette personne n'a pas réussi. Et ça peut vous mettre en difficulté. Ça, c'est très important d'identifier les loyautés parce que vous devez faire la paix avec elles, rendre aux propriétaires de ce qui s'est passé, ce qui leur appartient, et mener quand même votre route. Ce n'est pas parce que vous brillez de tous vos feux et que vous êtes dans votre lumière que vous allez forcément faire de l'ombre à ceux qui n'ont peut-être pas réussi le chemin que vous en, sur le chemin que vous allez emprunter. Ça, c'est la première chose, c'est l'état d'esprit. La deuxième chose qui est importante, le deuxième levier, c'est d'être clair sur vos enjeux. Vos enjeux, ça vous permet de définir un cap. Et comme le disait Sénèque, nul vent n'est favorable à qui ne connaît son cap, à qui ne connaît son port. Voilà, très exactement ce qu'a dit Sénèque. Nul vent n'est favorable à qui ne connaît son port. Si vous ne savez pas où vous voulez emmener votre barque, vous n'irez pas. Et ça, c'est entièrement fondé par votre capacité à vous dire pourquoi ce projet est-il important? Pourquoi je veux le faire pour moi? Et pourquoi c'est maintenant que je prends le risque de me lancer? Parce que c'est ça qui devient prioritaire. Et quand vous aurez défini ça, vous verrez que l'énergie qui va se créer autour de votre projet va être radicalement différente. Un enjeu, que ça marche, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit synthétique et il faut surtout que ça vous fasse vibrer. Deuxième levier. Troisième levier, c'est d'avoir de la méthode. La méthode, c'est d'abord et avant tout pour pouvoir mener votre projet entrepreneurial à bien. Un projet, ça s'organise. Et on s'en fait toute une montagne, mais en fait, il y a déjà des méthodes projet qui sont toutes prêtes, toutes faites pour pouvoir mener à bien un projet de A à Z. C'est typiquement ce que je fais dans le cadre de ma formation, je me lance. J'ai décrit toutes les étapes, les personnes qui s'inscrivent rentrent dans la première étape et vont jusqu'à la fin pour créer leur projet. Et tout ça est pensé, les méthodes projet sont super bien pensées. Moi, j'ai fait de la gestion de projet pendant 15 ans en entreprise, ça a été ça vraiment que j'ai fait notamment dans mon expérience Air France, de pouvoir aider l'entreprise à structurer des projets d'envergure. Et c'est parce que le projet est pensé de cette façon qu'il va réussir, parce que vous aurez identifié toutes les étapes, Vous remplirez toutes les étapes les unes après les autres, et ça va vous permettre de faire ce que j'appelle, découper ce qu'on appelle la montagne, qui nous semble infernale et inatteignable, que le sommet soit inatteignable, de découper cette montagne en petites collines. Eh bien, la gestion de projet, c'est exactement ça. Découper votre projet en petites collines pour que vous puissiez les unes après les autres les gravir et voir qu'à la fin, oui, en effet, vous avez gravi l'Everest. Donc, ça, c'est pour la partie. Première partie de la méthode, c'est la gestion de projet. Mais la méthode, ça va être aussi d'être en capacité de comprendre c'est quoi la méthode de comptabilité, c'est quoi la méthode de gestion d'entreprise, quelles sont les bonnes pratiques. Et tout ça, vous avez besoin de le savoir. Et rassurez-vous, c'est absolument à votre portée. Enfin, sauf si vous voulez créer, et je serais ravie que vous vouliez créer ça, une entreprise avec 70 salariés, une usine de production, là. C'est sûr que vous avez peut-être des compétences à acquérir que vous n'avez pas aujourd'hui. Si vous voulez lancer une activité de solopreneuse, de freelance, si vous voulez même créer un lieu, que ce soit un écolieu, une école de danse, mais ça, vous avez tout ce qu'il faut. C'est pas très compliqué en matière de gestion d'entreprise, ni en matière de comptabilité. Vous avez, parce que vous êtes des femmes qui gérez un foyer, vous avez tout ce qu'il faut pour être à la hauteur de la tâche. Alors, je vous pose la question là. Qui se sent à la hauteur de la gestion d'entreprise? Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, en attendant vos commentaires, je poursuis. Le quatrième levier pour pouvoir créer une entreprise rentable, c'est d'avoir le business model qui va bien. Et ça, c'est pareil. On s'en fait toute une montagne de ce business model. Toute une montagne. Et c'est loin d'être compliqué. En tout cas, pas pour le type d'activité que je viens de vous décrire. En fait, un business model, déjà, il faut être clair sur ses enjeux. Les enjeux d'un business model, il y en a trois. Le premier, c'est de pouvoir assurer la pérennité de votre entreprise et pour ça, du coup, de définir ce qu'il faut comme critère, notamment dans les critères, le chiffre d'affaires, de définir ce qu'il faut comme critère pour que votre entreprise tourne. Le deuxième enjeu de votre business model, c'est qu'il puisse vous garantir la rémunération dont vous avez besoin. Et c'est là où le bât blesse souvent dans les business models que j'entends, qu'on me présente, c'est qu'ils ne partent pas de la rémunération dont vous avez besoin. Sauf que c'est juste le point principal. Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est pour en obtenir une rémunération. Et cette rémunération, vous devez bien la définir en amont. Et c'est parce que vous avez cette rémunération définie que vous allez pouvoir définir votre chiffre d'affaires cible. Ça n'a pas de sens de définir un chiffre d'affaires si vous n'êtes pas OK avec la rémunération dont vous avez besoin. Et ensuite, comment ça va se passer, votre business model, pour qu'il soit affûté? Eh bien, vous allez partir de la rémunération dont vous avez besoin. Il va falloir aussi au passage, et ça c'est pareil, c'est pas compliqué, d'ailleurs je vous ferai une capsule là-dessus, comprendre comment marchent les statuts juridiques en France, parce qu'en fonction des statuts juridiques, vous n'allez pas payer le même montant de charges sociales sur vos rémunérations. Et ça va bien devoir entrer en ligne de compte pour définir votre chiffre d'affaires cible. Et puis vous allez calculer aussi les charges fixes de votre entreprise. Mais c'est pareil, c'est vraiment tout simple. Moi j'ai fait une liste de toutes les charges classiques que rencontre une entrepreneuse. Et puis cette liste, mais je la transmets quand je fais mes accompagnements. Et quand on cumule tout ça, votre rémunération, les charges sociales, les charges fixes, ça vous donne votre chiffre d'affaires cible. Et quand vous êtes là, vous avez fait la moitié de votre business model. L'autre moitié, c'est comment vous êtes en capacité de créer une offre produit qui, en la vendant, vous permet d'atteindre le chiffre d'affaires escompté. Donc, vous voyez, le business model, ça tourne autour de quatre points: votre rémunération, votre statut juridique choisi. Et d'ailleurs, autant vous dire que Un bon nombre d'entrepreneuses qui viennent à moi n'ont pas les bons statuts juridiques, parce qu'il y en a, il y a des statuts juridiques qui pourtant sont fortement répandus, tout le monde les prend comme si c'était des statuts hyper intéressants, alors que ce sont ceux qui sont le plus chargés au plan des taxes sociales, donc ce n'est pas du tout les bons. Donc, un, votre rémunération, deux, le choix du statut juridique, trois, vos coûts de structure. C'est sûr que si vous voulez ouvrir un lieu, ce n'est pas la même chose que si vous êtes solopreneuse et que vous allez vous limiter à votre ordinateur ou à votre imprimante. Et puis la dernière chose, c'est quelle est votre offre produit, quelle est votre gamme de produits et comment votre gamme de produits vous permet d'atteindre ce chiffre d'affaires escompté. Voilà. Et ça, c'est à la portée de toutes. Aujourd'hui, j'ai déjà fait quatre promotions de ma formation Je me lance. Toutes ont été capables de produire ce business model, quel que soit leur profil. Ne pensez pas qu'il faille être à l'aise avec les mathématiques et le calcul pour le faire. Aujourd'hui, il y a tous les atouts, tous les outils nécessaires qui font les mathématiques et le calcul à notre place. Vous êtes parfaitement en capacité d'atteindre cet objectif-là, de créer votre business model qui soit fiable. Et enfin, le dernier levier qui permet de créer un business rentable et pérenne, c'est votre capacité à créer un réseau. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui viennent à moi, à chaque fois, n'ont pas conscience de à quel point elles ont déjà un réseau et que ce réseau leur permet déjà de déployer leur business et de pouvoir le vendre. Un réseau, ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses, pas qu'à la vente. D'abord, un réseau, ça sert à avoir du soutien. Parce que dans ce réseau, vous avez des personnes qui sont solopreneuses comme vous et qui peuvent vous soutenir. Un réseau, ça sert aussi à créer un écosystème autour de vous. Parce que vous pouvez tout à fait avoir, vous, un type de produit et dans votre réseau, des personnes qui ont un type de produit différent. Et à vous, tout ensemble, vous allez pouvoir, par une entreprise de sororité, vous allez pouvoir créer des opportunités les unes pour les autres. Voilà très exactement aussi ce à quoi je tiens beaucoup. Moi, mes clientes autour de moi, je les mets en réseau. Bon, comme je le fais ici sur ce challenge, vous êtes maintenant 48 inscrites ici dans ce groupe Facebook, faites réseau en vous. C'est ça la force des femmes, de pouvoir identifier ce en quoi elles sont complémentaires et comment elles peuvent parler des offres les unes des autres. Un réseau, ça vous sert aussi bien sûr à vendre. Plus vous savez ouvrir votre réseau autour de vous, plus vous pourrez démultiplier vos opportunités de vente. Et enfin, un réseau, ça vous sert à avoir des opportunités de partenariat. Qui vous dit que dans les femmes là qui sont inscrites au challenge, vous n'allez pas devenir partenaire avec l'une d'entre elles? Qui vous dit que parce que vous êtes prof de yoga et que l'autre est coach, vous n'allez pas monter des événements ensemble? Qui vous dit que parce que l'une est consultante en RH et l'autre est consultante en finance, vous n'allez pas démarcher ensemble les entreprises et les services achats des entreprises pour pouvoir vendre ensemble non seulement votre prestation, mais proposer votre partenaire? Voilà, ça sert à ça, un réseau. Et les quatre piliers, je les répète, le mindset, l'état d'esprit, les enjeux, la méthode, les cinq piliers, pardon, et le réseau. C'est ça qui vous permet de créer un business rentable. Et tout ça, c'est parfaitement à votre portée. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser sur le sujet pour celles qui sont en live? Alors, si vous n'avez pas de questions, voilà l'exercice que je vous propose. Vous allez faire la liste de toutes les personnes qui peuvent constituer votre réseau. Cherchez bien. Vous allez voir, vous allez en trouver plein. Vous pensez aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas suffisamment de réseau, mais réfléchissez à ça. Je suis certaine que votre réseau est déjà là et qu'avec ce que vous avez, vous pouvez déjà avancer. Je vous propose un deuxième exercice. Lui, il est dédié aux loyautés. Hier, on a travaillé sur ce que vous dit votre voix rabat-joie, et généralement, elle vous parle soit de vos peurs, soit de vos croyances limitantes. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir aux loyautés qui vous entravent. Qu'est-ce qui, dans votre environnement familial, amical, peut-être professionnel, peut-être sociétal d'ailleurs, qu'est-ce qui aujourd'hui, ça peut arriver par exemple dans les communautés. Il y a aujourd'hui des communautés autour du bien-être, par exemple, je pense notamment à celle-ci, ou parfois autour de la spiritualité, où on imagine que gagner de l'argent, c'est moche et c'est sale. Enfin, il n'y a pas de raison. On fait tellement de bien en diffusant et en partageant sa lumière autour du bien-être, du développement personnel et de la spiritualité. Mais pourquoi ne pas en faire un business? Mais en quoi est-ce interdit d'en faire un business? Est-ce qu'il y a déjà la source ou l'univers qui nous a dit « Ah non, non, si tu parles spiritualité ou bien-être, ah ben non, non, ça tu dois le faire gratuitement. » Mais non. Mais au contraire, permettons-nous d'en faire quelque chose de beau qui constitue des offres belles et qui permettent à nos clientes, à nos clients d'avancer. Donc ça m'intéresse aussi que vous puissiez faire la liste des loyautés qui vous entravent pour qu'ensemble on regarde comment on les traite. Parce que vous le verrez cet après-midi, je prends vos peurs, vos croyances limitantes et tout ça, et j'en fais des petits audios qui vous permettent de trouver des solutions. Et après, je sollicite l'intelligence collective pour que vous puissiez obtenir aussi les solutions de celles qui sont inscrites au challenge. Parce que je ne suis pas la seule à avoir les solutions. Beaucoup d'entre vous ont énormément de solutions également et pourraient les partager. Voilà, je vous remercie beaucoup. Le prochain live, c'est jeudi, qui, je l'espère, se passera avec moins de soucis techniques, décidément. Et je vous embrasse.